Les nouvelles de ce mois-ci. Prix Nobel est accordé à l'équipe Kobe. La mission Stéréo, qui a pour but de photographier le Soleil en trois dimensions, est lancée. Des planètes à très courte révolution sont découvertes par Hubble. Et la découverte de couches de glace sur la Lune sont remises en question. Le prix Nobel de physique 2006 a été accordé à John Mather et George Smoot ce mois-ci pour leurs travaux sur les informations collectées par le satellite Kobe. Lancée en 1989, la sonde était conçue pour mesurer la radiation fossile provenant du Big Bang à l'origine de notre univers. La présence de ce petit reste d'énergie, aussi connu sous le nom de fond diffus cosmologique, fut prédit par les théoriciens dans les années 1940. Il fut détecté pour la première fois par accident dans les années 60 par Penzias et Wilson au Bell Telephone Labs, États-Unis. Kobe créa la première carte de cette radiation fossile couvrant la totalité du ciel et permettant aux cosmologistes de tester leurs théories sur l'origine et l'évolution de l'univers. John Mather reçut le Nobel pour son travail prouvant que le CMB a le spectre caractéristique d'un objet avec une température bien définie. Les résultats montrent qu'à une époque très jeune, l'univers se comportait comme un objet avec une température de plusieurs milliers de degrés. George Smoot reçut la prestigieuse distinction pour son travail qui mena à la découverte d'infimes fluctuations énergétiques dans la radiation, qui sont probablement preuves de structures dans le jeune univers qui a évolué en toute structure connue aujourd'hui. Ces découvertes ont depuis été confirmées par d'autres expériences. Le satellite WMAP est actuellement en train de cartographier le CMB avec une résolution bien supérieure à ce qui était possible avec Kobe, tandis que la sonde Planck de l'Agence spatiale européenne, qui sera encore plus sensible, a son lancement prévu pour 2008. Ce 25 octobre, la mission Stéréo de la NASA a décollé à bord d'un lanceur Delta II depuis la Floride. La mission Stéréo consiste en deux sondes identiques qui seront placées sur deux orbites sensiblement différentes pour obtenir deux vues séparées du Soleil. Les images seront combinées d'une façon analogue à la manière dont notre cerveau utilise l'information provenant des deux yeux pour construire une vision en trois dimensions. Les instruments sur les deux sondes permettront une visualisation tridimensionnelle du Soleil et de son vent stellaire qui s'échappe constamment de sa surface. Étudier ce vent stellaire est très important, car il entre en contact avec les planètes les plus proches du Soleil, y compris la Terre. Des orages solaires éjectent des vents puissants riches en particules chargées qui agissent sur l'atmosphère terrestre, impactant les systèmes de communication et d'aviation, ainsi que les astronautes et les satellites. Stéréo aidera à suivre ces flux de particules pour améliorer les prédictions météorologiques du vent solaire. On compte aujourd'hui plus de 200 nouvelles planètes en dehors de notre système solaire, dont la plupart sont des géantes avec une petite orbite autour de leur étoile mère. La majorité des planètes extrasolaires ont été découvertes par détection d'une oscillation de l'étoile mère due à l'action gravitationnelle de la planète qui tourne sur son orbite. Des observations récentes, obtenues avec le télescope spatial Hubble, ont eu pour but d'observer 180 000 étoiles vers le centre de notre galaxie, dans l'espoir d'y détecter la variation infime de luminosité lorsqu'une planète passe devant son hôte. Cette technique est connue sous le nom de méthode de transit et requiert une très bonne calibration de brillance des étoiles. Ce projet, mené par Dr. San du Space Telescope Science Institute, a déjà découvert 16 nouveaux candidats pour exoplanètes avec des périodes de révolution entre 0,4 et 4,2 jours. En comparaison, Mercure, la planète la plus proche de notre Soleil, a une période de 88 jours. 5 de ces nouvelles planètes orbitent leur hôte en moins de 24 heures et forment une nouvelle classe d'objets, les Ultra Short Jupiters. L'équipe de Donald Campbell à l'université de Cornell a remis en question la découverte de glace au cratère Shackleton près du pôle sud lunaire. Ils ont utilisé un radar à très haute résolution sur les télescopes Arecibo à Porto Rico et Green Bank en Virginie occidentale pour cartographier la région en question. Ils ont découvert que les échos de cette région étaient identiques à d'autres jeunes cratères situés à des endroits de la surface lunaire où la lumière du soleil fondrait toute glace présente. De précédents résultats, y compris ceux de la sonde Clémentine, ont suggéré la présence de glace sur les parois du cratère. Même si les résultats sont décevants pour l'ambition de créer une base lunaire qui utiliserait de la glace pour générer de l'énergie, Campbell rassure que cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas du tout d'eau sur la Lune. Des impacts de comètes ou météores auraient très bien pu déposer de la glace sur la surface et elle est probablement aujourd'hui dispersée en forme de grains mélangés au sol lunaire plutôt que sous forme de grands glaciers. Ce mois d'octobre aura aussi vu les deux télescopes de Fawkes, des miroirs de 2 mètres situés à Hawaï en Australie, endommagés par des phénomènes naturels. Les télescopes de Fawkes sont utilisés par les écoles du monde entier, permettant aux enfants de prendre leurs propres photos astronomiques ou même de contribuer à la recherche scientifique. Le télescope sur le Mauna Kea à Hawaï a été endommagé le 15 octobre par un tremblement de terre dont l'épicentre était situé non loin de la côte de la grande île de Hawaï. Il devrait être remis en service très bientôt. Le télescope en Australie fut frappé par la foudre le jour suivant et a subi d'importants dégâts. Les ingénieurs s'emploient aux réparations et espèrent le remettre en service début 2007. En octobre, fut également réouvert l'observatoire du mont Stromlo à Canberra après sa destruction en 2003 par un feu de forêt. Les bâtiments et télescopes furent endommagés et dans certains cas complètement détruits par le feu qui ravagea la capitale en janvier il y a 3 ans. Les nouveaux bâtiments comportent de grands laboratoires et ateliers dans lesquels de nouveaux équipements pourront être conçus. Et pour finir, la NASA vient d'approuver une 5e mission d'entretien pour les télescopes spatials Hubble. La décision fut annoncée le 31 octobre par Michael Griffin, actuel président de la NASA. L'agence spatiale américaine, qui gère le fonctionnement du télescope aux côtés de l'agence spatiale européenne, avait annulé toute mission pour l'observatoire orbital après la perte de la navette Columbia et de son équipage en 2003. 3 missions ont depuis été complétées avec succès et la décision fut prise de retourner une dernière fois au télescope, qui a non seulement des problèmes de guidage mais aussi des instruments dont le remplacement est nécessaire. La mission aura pour but de remplacer ces instruments défectueux et d'améliorer un des capteurs de guidage à haute résolution qui permettent au télescope de pointer dans la bonne direction. Le vol est prévu pour 2008 et devrait accroître la durée de vie de Hubble jusqu'en 2013.